I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Activiste. Ici Esther, accompagnée de Clémence et bien sûr de notre invitée du jour. Elle est journaliste, mais elle a aussi rejoint ou créé un grand nombre d'organisations en tant qu'activiste, comme La Barbe, la Conférence européenne lesbienne ou encore l'Association des journalistes LGBT. Elle n'y voit aucune contradiction. Elle considère que sa position de femme lesbienne et activiste est même une force dans l'exercice de son métier, même si la profession ne l'entend pas toujours de cette oreille. Elle est aussi élue dans le 12e arrondissement de Paris et à la rentrée, elle a publié un livre aux éditions Grasset, Le génie lesbien. Il porte très bien son nom, parole de lectrice. Pourtant, il lui a valu un véritable cyberharcèlement et des invectives en tout genre. Dedans, elle évoque aussi bien les espaces de pouvoir où les hommes dominent que l'impact des coming out publics ou encore les imaginaires féministes et lesbiens. Et c'est une vraie bouffée d'air frais. Si jusque-là, vous ne l'avez pas identifié, alors je vous donne son nom. On a le plaisir d'accueillir Alice Coffin sur Activiste. Bonjour Alice Coffin.
Bonjour.
Alors, je voudrais rentrer directement dans le vif du sujet et parler un peu de votre livre, des réflexions que vous y tissez et dont vous nous armez aussi, nous lectrices, parce que je l'ai un peu ressenti comme ça. Par exemple, sur l'absence de femmes dans les espaces de pouvoir. Alors bon, déjà j'ai ri parce que vous faites part de toutes les actions que vous avez menées avec La Barbe, des réactions des hommes que vous interrompez quand vous surgissez comme ça sur scène pour pointer en fait... les mettre face à leurs responsabilités et au fait qu'ils ne sont qu'entre hommes. Et vraiment, bah, les réactions que vous décrivez, elles sont risibles, quoi. Enfin, elles sont ridicules. Ça doit être assez jouissif comme moment à faire, non ?
Ah ouais, une action de La Barbe, c'est évidemment jubilatoire. Mais la jubilation, elle est... heureusement qu'elle est là, parce que par ailleurs, c'est aussi, comme tout travail, j'insiste sur le mot travail activiste... générateur de pas mal de stress, d'inquiétude, parce que justement, il y a un gros... On n'arrive pas comme ça, hein, sur scène, ça nécessite toute une préparation, ça engage un collectif, donc c'est important aussi que ce temps mis bénévolement, comme le font les activistes, sur leur temps à elles, sur des actions qui peuvent éventuellement aussi les mettre en péril professionnellement ou dans leurs entourages. Il n'y a pas de critère évidemment de réussite dans un point de vue activiste. En revanche, ça génère un souci, une responsabilité de bien faire et que tout ce travail-là il soit mené à bien. Et puis aussi parce que c'est important que les raisons pour lesquelles on soit là, elles aboutissent à ce que ça change des choses. Donc cette jubilation-là, en fait, elle est la contrepartie d'aussi pas mal de stress, d'inquiétude, voire de violence qu'on se prend. Donc heureusement, effectivement, qu'on rigole aussi beaucoup et que c'est, j'avoue, c'est un plaisir de voir leur mine un peu déconfite souvent.
Vous venez de dire quelque chose que je trouve très intéressant. Il n'y a pas de critère de réussite dans une action, dans l'activisme. Comment on fait alors ? Comment vous faites pour ne pas vous épuiser ? Puisque on n'arrive pas à savoir qu'une action réussit.
Ouais, je dirais même, je dis ça dans le livre à un moment, mais j'emprunte ça comme beaucoup de choses à ma compagne, à Sylvia Casaino, qui dit souvent, qui est une grande militante, et qui dit souvent les militantes, on perd toujours en fait. Et il faut savoir ça. Et je compare ça notamment. J'ai été déléguée syndicale aussi. Dans le syndicalisme, on a davantage, par exemple, j'allais dire des critères qui sont en soi déjà, bon, le terme critère de réussite est un peu appartient à un vocabulaire qui n'est pas spécifiquement le mien, mais néanmoins, on pourrait avoir des victoires. On l'a, quand j'étais déléguée syndicale, on peut avoir tel ou tel plan où on réussit à bien négocier un plan, où on sauve des départs, etc. En militantisme, je crois que par essence, si on est là, c'est qu'en face, il y a une oppression en place, il y a des discriminations en place, on est au pied d'une montagne qui nous écrase. Donc de toute façon, le fait même qu'on fasse du militantisme, c'est signe qu'on n'est pas du côté des dominants, des victorieux, de ceux qui écrivent l'histoire. Donc c'est important d'en avoir conscience, je pense. C'est juste que déjà ça aide beaucoup. En revanche, pour tenir, je pense que ça ne veut pas dire que le fait que ça ne se traduise pas en termes de victoire, de gagner ou un truc comme ça, c'est la force du collectif, des rencontres. Moi, j'y tiens en particulier pour le militantisme lesbien. C'est aussi un lieu où moi, j'ai rencontré des amoureuses, des amis. Donc, ce n'est pas seulement au nom d'une cause, d'un combat. C'est aussi tout ce qui entoure et de ce qui vraiment, en termes d'humanité, c'est pas des mots, mais un truc qui est fondamental pour moi dans ma vie, parce que c'est l'endroit aussi où je m'amuse beaucoup. Donc c'est ça qui permet aussi, je pense, de tenir.
Alors justement, moi je voudrais savoir comment vous avez mis le doigt dans l'engrenage, dans cet engrenage du militantisme, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de franchir ce pas-là. C'était quoi votre première indignation quand vous étiez jeune, pour remonter très loin, avant même un engagement concret, si je puis dire, votre première indignation ?
Indignation, je ne sais pas, mais une colère que je pouvais avoir et qui s'est ressentie après, une tristesse presque un peu, c'était mon rapport au football qui est très important pour moi. Je fais partie d'une équipe activiste qui s'appelle les dégommeuses, pour lesquelles j'ai joué libéro un temps au foot, et qui est aussi un club, une asso de défense des droits des lesbiennes, des trans. Bon, le foot est important dans ma vie parce que j'aime beaucoup y jouer, et j'adorais y jouer enfant. J'adorais jouer au foot, mais j'y jouais beaucoup avec mon frère dans un milieu familial. Jouais beaucoup le week-end dans l'appart, dans le milieu de proximité. Et en revanche, quand j'étais dans la cour de récré, moi, en tout cas dans mon école, qui était rue Charles Baudelaire, dans le 12e, dont je suis maintenant élue à l'égalité femmes-hommes, justement, la cour de récré, elle était faite en sorte qu'il y avait un immense espace qui était dévolu au terrain de foot, et où il n'y avait que des garçons qui jouaient, et où ça me semblait, en fait, c'était même pas... Je dis même pas que j'ai eu un refus, que je me suis prise un truc, ou non, tu joues pas, mais c'était pas ma place. C'était très clairement pas ma place. Et ça aurait semblé, pour reprendre le champ lexical, déplacé que je m'y rende. Et ça, c'était une incompréhension et une tristesse terrible, parce que j'aurais adoré avoir cette joie-là que j'avais de jouer au foot également dans la cour de récré, ou également en club de foot. Et j'ai même pas demandé. Je pense qu'en plus, mes parents, ils auraient dit oui si j'avais dit, ou ils seraient démenés, ça n'existait pas tellement, mais pour chercher un club. Mais je l'ai même pas formulé, parce que pour moi, c'est comme si j'avais intégré ces choses-là, et plus avec tristesse qu'avec colère, mais que, bon, ça allait dans le milieu familial, mais pas ailleurs.
Vous venez de dire, c'était pas ma place. Ça résonne beaucoup en moi. Est-ce que c'est ça un moteur de votre engagement, de votre activisme, c'est de se faire une place dans un monde qui en laisse finalement assez peu aux femmes?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de manières de pratiquer l'activisme, et moi j'ai pas. Je pense que toutes ont leur intérêt. Et moi j'ai une stratégie spécifique qui est effectivement d'aller occuper les places qui par essence ne nous sont pas dévolues, dans lesquelles on ne devrait pas être. Et je pense que c'est une démarche à la fois personnelle, c'est-à-dire c'est un moteur, un tempérament. Mais c'est aussi très important en termes de stratégie politique, parce que ça veut évidemment dire quelque chose que la société soit dessinée avec des frontières, avec des espaces dans lesquels certains sont bienvenus, certaines ne le sont pas. Et ça vaut de manière très large, en fait, dans mon organisation pas seulement de pratique, mais de pensée. C'est-à-dire qu'il y a le côté place, donc ça veut dire aller, bah justement, comme les actions de la barbe, faire irruption dans des espaces où on ne nous attend pas. Donc ça, c'est l'activisme pur jus, j'allais dire, qui est vraiment une essence de l'activiste, de faire des happenings, des apps, ça, c'est vraiment tel quel. Il y en a une autre part, c'est d'intégrer des systèmes, ça, c'est plus ce que j'ai fait en tant qu'élu, d'arriver dans des espaces et d'y tenir, d'y avoir un comportement d'activiste en fait, de pas changer son comportement, c'est-à-dire même une fois élu dans des hémicycles codifiés, hein, très très réglementés par la façon de prendre la parole, la façon de respecter tel ou tel usage, importer aussi ces méthodes-là à l'intérieur et pas pour faire un truc de rebelle ou de démarcation, parce que je pense que c'est bien, enfin c'est bien d'avoir l'activisme a beaucoup de choses à nous apprendre et pas du tout comme des uluberlus ou quelque chose comme ça, mais parce que c'est une pratique de la politique extrêmement intéressante et constructive, et c'est bien dommage que ces espaces dits labellisés politiques de manière sérieuse n'aient pas aussi ces pratiques là. Puis un troisième point dans lequel la notion de place est très importante pour moi, c'est la question des frontières et des territoires, c'est-à-dire que moi je note que quand on est activiste, quand on se définit comme activiste, ça nous exclut automatiquement de tout un pan d'autres activités, justement. Alors moi, je l'ai vécu en tant que journaliste, on me disait « tu n'es pas journaliste, tu es militante ou tu es activiste ». Je le vis en ce moment en tant qu'élu, « tu n'es pas élu puisque tu es activiste », comme si ce terme-là nous empêchait, et c'est valable pour plein d'autres activités humaines, d'être aussi reconnu, légitime. Et là encore, bah, c'est une question de place, d'espace, de frontières qui sont dessinées par certains pour délimiter des territoires, comme c'est le cas dans une frontière, et donc des rapports de pouvoir hein, de manière ultime.
C'est hyper intéressant. On va revenir ensuite sur plusieurs des points que vous avez abordés assez rapidement là. Mais donc, vous citez ces espaces et vous citez ces frontières, et une des frontières que je vois, moi, c'est cette espèce de plafond de verre invisible où il y a donc énormément d'espaces où on n'a pas de femmes. Et en fait, dans votre livre, vous citez Zemmour. C'est marrant parce que c'est précisément la phrase qu'on a choisi de mettre dans notre générique. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Sauf que vous allez plus loin, vous mettez la fin de sa citation déjà, alors que nous, on s'est arrêté là. Si on s'arrête à ce premier bout, en fait, hors de contexte, on se dit, et même d'ailleurs, vous le dites très bien dans votre livre avec la suite, mais je suis d'accord avec lui, il a raison. Mais très précisément, vous dites, oui, mais je n'en tire pas les mêmes conclusions. Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu, justement, quelles sont ces conclusions que vous en tirez ?
Oui, c'est ça, parce que effectivement, il y a sur les présupposés d'Éric Zemmour, Éric Zemmour, il est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il est intéressant comme Donald Trump pouvait l'être. C'est-à-dire que lui, il dit tout haut, en fait, les structures qui régissent la domination masculine. Normalement, elles sont un peu dissimulées. Tout l'objectif, par exemple, d'un activiste comme celui de la barbe, c'est d'aller les rendre visibles, de tout un coup les faire éclater au plein jour, parce que généralement, ils prennent bien soin, en fait, que ça ne soit pas trop révélé. Zemmour, il assume complètement tout ce système du patriarcat, de la domination masculine. Il assume, il est d'accord avec. Et finalement, ça rend les choses plus aisées pour mener un combat, puisqu'on peut s'appuyer. Il formule de manière très claire la donnée du qu'est-ce que c'est que le patriarcat, qu'est-ce que c'est que le pouvoir vécu comme masculin, se confondant avec la masculinité. Donc il dit effectivement que là où il y a des femmes, il n'y a pas de pouvoir, en gros. Que le pouvoir, c'est d'abord la masculinité, que toute intervention d'un élément féminin rend caduque le pouvoir, l'affaiblit. Donc lui, il le dit comme ça, c'est ça. Et moi, là où je dis où je suis d'accord, c'est parce que, et les conclusions que j'en tire, c'est qu'effectivement, il faut bien comprendre qu'on n'a pas seulement affaire à des histoires d'inégalités qui vont un jour se résoudre, que finalement les femmes prendront un jour le pouvoir, que ça va se rééquilibrer, que c'est un combat. Non, c'est bien plus fondamental et essentiel que ça. C'est que ce qu'on appelle le pouvoir se confond avec la masculinité, a été forgé sur des standards, sur des comportements qui sont ceux aussi qu'on développe quand on parle de masculinité, qui sont ceux avec lesquels on éduque. C'est un monde très général, hein, bien évidemment, qui vaut pour des siècles d'éducation et tout ça, mais de manière générale, où on pense une éducation de garçon devant mener à être homme, avec certains critères, certains tempéraments, certaines attitudes qu'on veut développer. Ces attitudes-là sont celles qu'on va définir comme importantes pour gouverner, pour avoir du pouvoir. Donc en soi, de toute façon, c'est complètement vicié. C'est-à-dire que si on veut détruire ce fonctionnement-là, il faut détruire la masculinité. C'est entièrement lié. Et pour moi, ça, c'est valable pour le pouvoir, mais c'est également valable pour un ensemble de champs d'activités humaines qu'on appelle comme ça, et je pense à l'art notamment, on dit beaucoup, voilà, l'art, la culture, et qui pour moi, parfois, je pense vraiment, se confondent aussi avec la masculinité, sont des excroissances de cette masculinité-là, ont été construites, finalement, comme champ d'activité susceptible d'élargir le pouvoir des hommes, de leur donner encore plus d'outils, et c'est très différent selon qu'on parle d'un outil artistique, de l'influence que ça peut avoir sur les esprits, les imaginaires, une œuvre, que d'un outil politique qui là va avoir une influence directe sur la société, que d'un outil sportif qui va plus viser à un effet d'entraînement des masses, en fait, dans une jubilation, une joie, un combat collectif à travers le sport, mais là aussi très très ancré sur des notions et des standards de masculinité.
Alors moi je vous écoute, j'ai l'impression que Morpheus est en train de m'emmener dans la Matrix et de me faire voir la réalité, et j'ai une double question parce que là on n'a pas le choix d'avaler juste une pilule pour faire la transition, c'est comment est-ce qu'on dépasse la sidération et comment on déconstruit l'évidence ? Je développe un petit peu, comment on dépasse la sidération, c'est-à-dire moi face à un Zemmour ou un Trump qui dit tout haut ce que j'ai bien senti, qui était le sous-texte de la société dans laquelle je vis, je suis juste sidérée d'entendre les choses dites aussi clairement, et je suis d'autant plus sidérée de voir que ma sidération n'est pas globalement partagée. C'est-à-dire qu'autour de moi, il y a des gens pour dire « il a raison ». Et il y a tellement de gens pour dire « il a raison » qui finit par être président des États-Unis pendant 4 ans. Donc ça, c'est pour la partie sidération. Et comment on déconstruit l'évidence ? C'est-à-dire, autour de moi, il y a des gens extrêmement intelligents, sensibles, il y a des hommes qui sont... Qui jouissent de ce privilège masculin sans être conscients de ce privilège, sans avoir été volontaires pour l'exercer, sans voir finalement comment est-ce qu'ils peuvent devenir alliés du féminisme. Et c'est vrai que moi je suis démunie face à ces gens-là, de bonne volonté, mais je ne sais pas comment leur expliquer ce qui est une évidence pour moi et un impensé, un invisible pour eux.
Ouais, c'est très douloureux en fait, effectivement, de quand on réalise à quel point en fait c'est pas du tout ce qu'on peut penser effectivement du domaine de l'évidence, partagé ou pas. Après ça, bon, ça doit interroger parce que c'est pas non plus pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce que ça veut dire sur l'humanité, pourquoi il y a des gens qui ont des opinions si différentes les unes des autres. Il y a plein de raisons à ça. Il y a des raisons, il faut d'abord, je pense, prendre ce qui va appartenir du registre justement des rapports de force, des rapports de pouvoir, et sur là, une fois qu'on a acté ça, on ne peut pas grand-chose, je m'explique. Je pense qu'il y a vraiment certaines personnes pour qui ça ne pose pas de problème de dire, bah oui, la vie est un combat individuel ou du groupe dans lequel je me reconnais, que je veux faire triompher, et pour ça, j'accepte complètement d'en écraser d'autres. Je trouve que sur cette planète, ça n'est pas grave, que certains aient beaucoup plus d'argent que d'autres, aient beaucoup plus de pouvoir que d'autres, puissent les faire souffrir, puissent les écrabouiller. Bon, bah, il y a des gens qui pensent ça. Donc ça, j'allais dire, on est dans un problème très extrêmement profond, métaphysique, de l'humanité, du bien, du mal, de pourquoi est-ce que certains, ça ne leur pose pas de problème d'agir ainsi. Là-dessus... on ne peut pas grand-chose, à part prendre en compte qu'on est des êtres humains conçus avec des chairs, des cerveaux qui mettent ça en place. Hein. C'est un problème qui touche à des choses bien plus profondes. Donc là, c'est même plus de la sidération, c'est vraiment le tragique de l'existence humaine. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y en a d'autres où là, c'est différent. C'est-à-dire qu'on va parler de personnes qui, elles, n'ont pas l'impression, en étant d'accord avec certains propos, d'exercer une domination ou de participer à l'écrasement de beaucoup d'autres populations. Et ça, c'est évidemment avec ces personnes-là qu'il faut essayer de travailler en poussant, je pense, vraiment les discussions. Et c'est pour ça un livre, c'est pour ça ce que vous faites en podcast, c'est pour ça toutes les productions, évidemment, journalistiques, culturelles, sont très importantes parce qu'elles permettent de donner des possibilités de sortir de notre propre pensée intérieure ou de la pensée de discussion avec des proches. Et d'essayer d'engager justement une déconstruction, une conversation. Mais pour ça, ça implique vraiment de bien pousser au bout les raisonnements de certains et de bien leur faire comprendre où est-ce que leurs présupposés emmènent le monde. Je pense par exemple à une phrase qui a été beaucoup commentée dans mon livre, où moi j'explique que voilà, je lis, j'essaie de plus lire les livres d'hommes, de plus voir leurs films, tout ça. Et ça, je veux dire, de pas d'être contre ça, de crier à la suppression d'une partie de l'humanité, etc. Au-delà des clichés de la mauvaise foi, pour certains, c'est vraiment réel de dire bah non, mais pourquoi c'est compliqué. C'est dire non, mais ça, c'est un impact réel. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord pour dire qu'il faut aider les femmes à accéder davantage à la production culturelle, de manière, si on va au bout du raisonnement, vous participez complètement à la domination du monde, parce que ça a évidemment des impacts après sur les vies, sur la construction de nos sociétés. Donc vous, en tenant ce discours-là, ça a des impacts très graves. Donc c'est vraiment toujours cette question, moi, qui m'intéresse beaucoup, de la responsabilité, en fait, de mettre les gens en face de leur responsabilité et de faire comprendre que il y a un continuum, en fait, des oppressions. C'est pas un point, oh ben ça va, et moi je viole pas, en gros c'est ça hein, qu'ils disent en général. C'est vraiment dire non, mais tout ça c'est lié, en fait c'est lié, et il y a un système, et c'est ça qu'il faut, c'est ça le plus important à faire comprendre au-delà du contenu de chaque point différent justement de ce système.
Dans vos explications, vous êtes passé par l'art, par le sport, par plein de sphères différentes de la société pour montrer qu'en fait elles étaient l'incarnation de la masculinité. Vous nous dites qu'en fait c'est une forme d'absurde poussée jusqu'au bout, et vous expliquez aussi ce continuum de l'oppression. Dans ce continuum, il y a un point qui fait que effectivement, on l'a redit tout à l'heure, il y a des espaces, il n'y a pas de femmes. Mais moi, il y a un truc qui m'a marqué dans l'actualité récemment et qui fait sens avec ce que vous dites dans votre livre, c'est tout ce que vous dites sur les quotas. Et en fait, le fait que les quotas existent déjà. Par exemple, là récemment, on a appris cette semaine que la mairie de Paris allait devoir payer 90 000 euros d'amende parce qu'elle avait nommé 11 femmes et seulement 5 hommes à des postes de cadre et de direction au cours de l'année 2018. Là, on est dans une forme de quotas où on se dit, mais enfin, en plus, c'est complètement absurde parce que ces nominations visaient à combler un fossé qui était déjà très large parmi les postes de direction de la mairie de Paris. Et en fait, on voit que finalement, là, on est en train d'appliquer des règlements qu'on demande, nous, à, à être appliqués dans l'autre sens depuis, en tant que féministe, depuis des années. Et là, on les voit s'appliquer dans ce sens-là. En gros, vous fustigez notamment le fait qu'il y a plein d'hommes qui s'insurgent contre les quotas, alors qu'en fait, ils en sont en réalité les premiers bénéficiaires. Moi, c'est un truc que je vois s'appliquer dans cette actualité qui est que la mairie de Paris doit payer 90 000 euros d'amende pour avoir nommé trop de femmes. Bah, quelles sont vos réflexions à ce sujet-là ?
Alors, deux choses. Sur le point particulier de la mairie de Paris, c'est intéressant parce que, bon, évidemment, la discussion, cette décision fait réagir et rend en colère. Néanmoins, j'espère que toutes celles, tous ceux qui sont en colère là-dessus seraient d'accord dans ce cas-là pour changer les textes législatifs. Et j'en suis pas sûre, parce que si on arrive là, c'est parce qu'il y a une focalisation sur la notion de parité, qui est en gros le point qu'on a réussi à faire à peu près accepter dans la société. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tout le temps des mouvements sur qu'est-ce qu'on jusqu'où on peut porter un combat et qui se traduisent de manière législative et autres. La parité, c'est OK. 50-50, on est passé par là. Est-ce que réellement, y compris dans les gens qui s'offusquent, il serait OK pour que dans ce cas-là, on change la loi, parce que c'est la loi qui a été très très mal écrite, et pour qu'on écrive qu'il faut un maximum de 50% d'hommes ou un minimum de 50% de femmes, ce qui évidemment éviterait ce genre de bêtises. C'est-à-dire que si on dit bah, il faut minimum 50% de femmes ou maximum 50% d'hommes, on n'a plus de problème quand il y a plus de femmes que d'hommes. C'est par exemple, moi je suis à l'association des journalistes LGBTI, c'est comme ça que sont rédigés nos statuts. Eh bien, je me demande s'ils seraient d'accord, en fait, parce que moi, c'est typiquement... Parce que là, je ne sais pas si ça serait pas vu comme une discrimination, justement, envers les hommes. On est OK pour la parité, mais pas trop. Parce que finalement, cette décision-là, OK, elle est absurde, elle met en colère, mais bon, c'est la loi qui a été très mal écrite sur le sujet, parce que c'était susceptible d'arriver, ça sera encore. Donc, changeons la loi et voyons là si c'est OK de changer la loi là-dessus. De leur dire, vous n'avez pas plus. Et voyons s'ils ne crient pas à la discrimination à ce moment-là, et ça ne m'étonnerait pas. Ça, c'est la première chose. Et après, oui, alors sur la notion la discrimination positive, elle est exercée depuis des siècles par les hommes, mais évidemment, et ça c'est pour ça que c'est quand même dingue qu'eux en viennent à nous à faire la fine bouche sur des questions de quotas, quand il y a une seule explication. Je veux dire, à un moment, si on voit des hommes absolument partout, moi je veux bien, mais par exemple dans la manière artistique, quand ils disent « non, pas de costard, vous vous rendez compte quand même, en peinture, en cinéma, l'important, c'est le talent, c'est le génie, quelle horreur de mêler des questions de quotas à ça. » C'est une plaisanterie. Donc qu'est-ce qui, au fond du fond encore, déroulons le raisonnement. Et à la fin du truc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire que quand on a des sélections du Festival de Cannes où il n'y a que des films réalisés par des hommes, bah en fait, comme c'est le talent et c'est le génie, ça veut dire que c'est que les hommes qui ont le talent et le génie. C'est ça qu'ils veulent nous dire ou pas ? C'est ça qu'ils veulent dire, que le talent et le génie, finalement, si on compare tous ceux qu'on a sacrés grands génies de l'humanité et qui sont essentiellement des hommes, dans ce cas-là, ça veut dire que ça leur appartient. Et donc ils veulent dire quoi ? Que les hommes sont meilleurs, en fait, ont plus de talent, plus de génie, sont tellement plus inspirés ? Ou est-ce qu'il faut aller encore un pas après et dire, bah non, c'est pas une question de ça, évidemment, mais c'est que vous, vous cooptez, c'est que ça n'a rien à voir avec une question de talent et de génie, mais d'une façon de se faire accéder à des possibilités de création, se financer, se nommer, parler de l'un et de l'autre. Et évidemment, en fait, que ça se passe comme ça, et que pour eux, il est indispensable qu'il y ait des hommes dans ces instances-là et qu'ils les font passer d'abord, en fait. Et c'est comme ça que ça se passe, et pas l'inverse. Donc c'est quand même, mais comme tout ce qui est, c'est pour ça qu'il est si puissant, hein, le système patriarcal et sexiste, c'est quand même extrêmement bien pensé et vicieux, hein, comme procédé. C'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre des procédés et contre lesquels ils crient à l'horreur et l'injustice quand nous, on les présente de manière un peu constructive.
Mais alors, vraie question, est-ce que des mesures comme les quotas, c'est vraiment utile, c'est vraiment pertinent, dans le sens où on est d'accord que le problème tient au système patriarcal dans son ensemble, et que finalement, mettre en place des quotas, c'est un peu quand même mettre un sparadrap sur une jambe de bois. Et je précise ma pensée, effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense que ce serait inconstitutionnel de venir imposer un minimum ou un maximum par genre, puisque la République ne reconnaît pas toutes ces catégories. On est indivisible, égaux, etc. etc. Donc quelque part, on n'arrive pas à créer des outils juridiques pertinents par rapport à l'esprit d'égalité de notre système normatif. C'est le système patriarcal qui dévoie les textes et notre envie de vivre ensemble pour maintenir ce système d'oppression. Je vois pas d'autre sortie qu'en le déconstruisant en entier, dans son entièreté. Et que, enfin, vraie question du coup sur un système comme les quotas. Est-ce que c'est utile et pertinent, dans quelle mesure, ou est-ce que de toute façon on s'épuise et on finit par avoir des absurdités comme cette amende à Hidalgo ?
Alors, c'est tenu un peu, et c'est normal, hein, qu'il y ait des procédures législatives et tout ça. Bon, là, je ne voudrais pas trop le problème de les faire passer, mais on ne peut pas tout faire traduire dans une loi sur justement la façon dont s'exerce cette domination. Donc moi, en revanche, je crois quand même beaucoup à cette imposition qu'on peut se faire, statistique, arithmétique, même si elle résout évidemment pas tout. Mais j'y crois encore davantage sur des procédures internes. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi, par exemple, si on prend l'exemple politique, aux partis politiques de s'astreindre eux-mêmes à ces politiques-là, sans que ça soit nécessairement un truc qui soit débattu à l'Assemblée nationale ou autre. Mais, par exemple, je serais tout à fait favorable à ce qu'au-delà des critères femmes-hommes, par exemple, les écologistes, et j'en ai déjà fait part, disent, nous, sur nos prochaines listes, on veut tant de personnes, je ne sais pas, 30% de personnes racisées, parce que c'est une catastrophe en termes de représentation politique, la présence quand même absolue de personnes blanches sur les listes. Et je ne pense pas qu'on y arrive si on ne place pas un impératif, en fait, chiffré. Et c'est ça qui permettra de faire advenir. Et encore une fois, moi, ça va de pair avec le fait que je ne crois pas du tout aux ces histoires de compétences, mais « Ah, mais on ne va pas placer quelqu'un là parce que c'est une femme, parce qu'il est noir. » D'abord, pourquoi pas ? Parce que c'est super important, les questions de représentation. À partir du moment où on dit « La masculinité, c'est la traduction du pouvoir », bah, on comprend que bah, si, c'est très important. Ça fait une différence, puisque ça vient mettre en péril le système tel qu'il est conçu, d'avoir d'autres personnes qui incarnent justement ce pouvoir-là. Et après, franchement, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas vrai que c'est la compétence, le travail, le sérieux, disons, pour le dire autrement, qui est à la base des choix qu'on fait. Enfin, c'est vraiment une plaisanterie de penser ça quand on voit la série de personnes qui peuvent... Là, je parle de fées, hein, dont on voit qu'ils ne s'occupent pas vraiment de la fonction dont ils devraient faire, qu'ils font quelque chose d'autre, qu'ils en profitent pour, je sais pas, empocher de l'argent. Je fais pas du tout, c'est pas du tout général. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, notamment en politique, qui font très, très bien leur travail. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le critère non plus essentiel. Ça n'est pas vrai. Donc, du coup, je vois pas de contradiction à faire ça. Et quand je dis interne, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend la prochaine élection présidentielle, moi, je serais favorable à ce que le pays, il se dise, mais plus dans un dialogue, une construction, de dire, bon, là, on décide qu'on ne va pas encore avoir des hommes blancs, hétéros, avec plein d'autres critères qu'on peut... Enfin, il suffit de voir, en gros, prenons les portraits des derniers présidents de la République, et qu'on va pas avoir ça. On se dit... On se met tous d'accord entre partis en interne pour dire bon bah on présente pas, on ne les présente pas, on fait, on présente et on se dit que c'est un point très important en fait, que tout aussi important qu'un programme économique, qu'un programme culturel, que c'est majeur. Et ça je comprends pas, c'est-à-dire qu'en tout cas moi j'œuvre, c'est ma manière de vrai, puisque la question était sur qu'est-ce qu'on peut faire, moi c'est ma manière de vrai d'aller convaincre en interne des structures de dire on assume ça. On assume de dire que c'est quelque chose de fondamental. On assume de changer les compositions de nos listes de manière très réglementée en interne pour nous. On assume de présenter une candidature en fonction de ces critères-là et on en fait une priorité. C'est toujours pareil parce que c'est pour ça, ça rejoint notre conversation là qu'on a eue avant, c'est-à-dire soit c'est une priorité, soit ça n'en est pas. Mais si ça n'est pas une priorité, alors assumez ce qui se passe dans le monde. Assumez que les femmes continuent à être violées, tuées. Assumez-le dans ce cas-là parce que vous faites partie du problème. Vous faites partie des personnes qui contribuent à ce système-là.
Justement, sur cette idée de laisser la place, souvent, quand on aborde ce sujet-là, quand on avance ces arguments, on est très vite taxé de communautarisme, ou le nouveau mot à la mode, de séparatisme. Donc on en entend énormément parler en ce moment avec cette loi qui a été renommée, parce qu'on s'est dit quand même séparatisme, c'est pas très acceptable apparemment par l'opinion publique, donc on va remettre ça sur les valeurs républicaines, n'est-ce pas ? Donc, vous, dans votre livre, vous réhabilitez justement cette idée de communauté. Vous en parlez par rapport à la communauté LGBT, mais vous faites aussi référence à Rokhaya Diallo, aux conversations que vous avez eues avec elle, etc. Et donc, vous défendez cette idée et cette ressource, en fait.
Oui, alors là, ça touche plus à un problème, parce qu'il y a des problèmes qui sont à échelle planétaire, et là, ça touche plus à un problème très français. En fait, de rapport au concept de communauté, à la façon dont c'est instrumentalisé et qui emmène un peu loin hein, dans la réflexion, parce que fondamentalement, qui raconte les structures de la façon dont s'est forgée la France moderne, c'est-à-dire post, en gros, 1789, et sur quelle base, et qui ne sont pas des bases en soi, là encore, la discussion est possible, qui ne sont pas du tout des bases à jeter, à dire, enfin... se soulever contre l'arbitraire, contre la monarchie. Moi, j'avais 10 ans pour le bicentenaire de 89, j'étais abreuvée à ça, vive les sans-culottes, très bien, c'est pas du tout ça le souci. Mais en revanche, je comprends pas pourquoi 2 siècles après, on n'est pas capable aussi de déconstruire néanmoins certains présupposés qui, au fil et à mesure des décennies, après 1789, parce que ça s'est beaucoup plus forgé, notamment au moment de à la fin du 19e siècle, au moment de la Troisième République, bon, ont abouti à un système qui fait que, tout le monde n'a pas de chance, justement, l'égalitarisme républicain qu'on vend tant. Il y a quand même un problème, hein, quand on voit la tête des présidents de la République, de l'Assemblée nationale, des dirigeants du CAC 40, il y a un petit souci, donc ça ne fonctionne pas, donc c'est prenons-le ensemble, c'est pas pointer des coupables, c'est dire, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, et est-ce qu'il y a des problèmes, ils sont très larges, mais est-ce qu'ils sont liés un peu à la façon dont on conçoit la société française? Et moi, je pense évidemment que oui, et je pense notamment, ça s'ancre, effectivement, faut se rappeler que cette République-là, parce qu'effectivement, il y a eu un glissement, hein, là, on disait communautarisme, puis séparatisme, puis là, c'est beaucoup sur les valeurs de la République et tout ça, bah, parlons-en de la République, enfin, c'est quand même cette République-là qui, à sa base, exclut les femmes. Enfin, je veux dire, elles n'ont pas le droit de vote, donc on parle quand même de ça. Et ça ne veut pas dire on va jeter la République, ça veut dire comment on fait avec ça? Comment penser que ça, c'est hors de l'imaginaire collectif républicain? Que c'est commencé par là, par cet acte d'exclusion-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes là-dessus? Et comment ne pas maintenant essayer de le réfléchir un peu différemment, surtout Surtout qu'il y a tout un historique très très important qui a travaillé là-dessus. Enfin, je veux dire, il y a des 1848, tout ça, il y a des luttes sociales, ce qu'on appellerait maintenant intersectionnelles, et avant l'heure, qui vont amener une autre pensée là-dessus. Donc c'est complètement absurde en plus et erroné historiquement de placer la République comme un truc contre les communautés, uniquement sur un modèle universaliste, etc. Donc je pense que ça, c'est vraiment un effort à faire. Et c'est pas facile, et c'est facile pour personne. Moi, je dis pas que c'est une discussion facile, parce que ça s'ancre dans vraiment une sédimentation de la pensée française là-dessus. Mais ce qui est vraiment paresseux, et vraiment je parle d'absence de travail et d'effort, c'est cette utilisation vraiment que je vois faite par des gens, ça va du printemps républicain à d'autres formations ou intellectuels qui utilisent ces mots-là d'universel, de république et ou d'anti-communautariste de manière très machinale en fait. Vraiment, c'est un automatisme et qui ne regroupe rien. Donc oui, on a un souci en France avec ce discours-là et je finis là-dessus, mais je pourrais développer. Pour moi, ça reste un peu abstrait de dire ça comme ça. Moi, une des traductions, ce qui m'a alertée en fait vraiment là-dessus, c'est encore une fois, c'est mon expérience de lesbienne. C'est vraiment du vécu, c'est pas un truc théorique. C'est de me dire, tiens, comment ça se fait? Pourquoi il y a tellement de personnalités, moins de personnalités françaises que celles d'autres pays qui font leur coming out, qui se disent gays ou lesbiennes? Qu'est-ce que ça nous raconte? Parce que ça, c'est un truc qu'on peut chiffrer, c'est pas du domaine de l'interprétation, c'est arithmétique, de fait. Il y a eu des études réalisées, il y a eu moins de parlementaires français, françaises qui font leur coming out que dans un ensemble d'une vingtaine de pays, par exemple. Qu'est-ce que ça nous raconte sur la société française? Pourquoi c'est compliqué en France de s'affirmer en tant que personnalité publique, mais aussi gay ou lesbienne, et membre d'une communauté qui n'est pas la communauté républicaine ou qui n'est pas la communauté française? Et pourquoi c'est aussi dur? Et comment on peut faire en sorte que ça soit pas... perçu comme incompatible ou pas très grave, quoi.
Mais alors justement, est-ce qu'on n'est pas coincé dans un paradoxe, nous, le camp des progressistes? C'est-à-dire que du côté du camp de la domination, le script est assez simple. Tout va bien, ne change rien. Et dans le camp des progressistes, on veut à la fois que la différence ne soit plus un sujet, c'est-à-dire que tout ce qui fait nos individualités ne soit pas des motifs de discrimination, des critères de discrimination, mais simplement, au mieux, des facteurs de richesse individuelle, multiple, et dans le pire des cas, quelque chose de neutre, qui n'affecte pas nos destins, nos vies, notre place dans la société, etc. Et dans le même temps, l'instrument qu'on a pour déconstruire le système de domination, c'est de pointer toutes ces différences, et de s'en prévaloir, et de s'en prémunir pour notamment revendiquer des places, des postes, montrer par effet miroir au système dominant que vous êtes tous pareils, vous êtes une armée des clones d'hommes blancs, hétérosexuels, vieux, etc. Regardez-nous la diversité, vous ne nous représentez pas, etc. etc. Et j'ai l'impression en tout cas d'être moi dans ce paradoxe de je veux que ma différence, que nos différences ne soient plus des sujets, et en même temps, quel autre levier j'ai que de brandir cette différence presque comme un étendard?
Bon, moi mes solutions, elles passent par la pensée du lesbianisme politique, hein, par le fait d'être lesbienne, ce qui, je pense, est une manière d'être un peu spécifique dans un combat politique, justement, contre des structures, et notamment celle du patriarcat, parce que, et c'est pareil à la barbe aussi, ma priorité, c'est toujours de regarder ce que eux font, pas finalement ce que... nous on fait, comment eux se comportent, c'est-à-dire que pas et ce qui évite justement en plus des divisions finalement, c'est-à-dire qu'à la barbe on disait toujours nous, il y avait des féministes qui étaient d'obédience très différente, hein, qui pouvaient participer à des actions de la barbe en disant nous on a un focus, c'est les hommes, c'est de tendre un miroir à ce fonctionnement de la virilité là, et après le reste organise, ça peut poser encore plein de questions, plein de questionnements et tout ça, mais d'abord. Et moi, c'est vraiment ma stratégie. Abattons ce système-là. Et après, je pense vraiment que ça donnera aussi beaucoup de respiration et d'étouffement parce que le reste de la discussion est très biaisé. C'est très compliqué de s'épanouir et de discuter quand on est dans un bocal, quand on est opprimé. Et ça donne lieu, justement, je pense, que beaucoup des disputes des discussions que je vois entre minorités ou autres, elles viennent du fait qu'elles sont établies, ces discussions-là, dans un climat de violence et d'oppression qui sont subies et qui rendent très compliquées les discussions sereines, de ne pas retourner la violence contre soi, et tout, beaucoup de mécanismes qu'on connaît. C'est pour ça que pour moi, il y a d'abord une volonté d'aller, en gros, déconstruire, d'avoir un système d'oppression, ce qui permettra un peu de... Ce qui ne réglera pas tout, évidemment, mais ce qui permettra quand même de davantage respirer dans le même ordre d'idées. Je sais que moi, je ne suis pas très attachée à des politiques, disons, très fermes en termes de description d'identité, de termes me définissant comme membre de telle ou telle appartenance, groupe. Mais encore une fois, je ne critique pas, hein, c'est ceux qui ont besoin vraiment d'avoir... et qui revendique ça même comme un outil politique, hein, je le comprends aussi. Mais moi, c'est vrai que c'est pas du tout ma manière de faire, à part, mais peut-être parce que, justement, pour l'aspect lesbienne, mais qui, pour moi, n'est pas précisément une question d'orientation sexuelle ou d'identité, mais que c'est vraiment le nom d'une pensée politique, donc, qui, en gros, vise à abattre le patriarcat. Donc, c'est
l'idée de nos identités, nos différentes étiquettes, nous définissent sans nous enfermer, ou d'ailleurs ne nous définissent pas forcément. Vous êtes lesbienne, c'est un fait, c'est quelque chose d'acquis qui fait partie de vous, et pas un étendard, et pas quelque chose qui va... vous ne vous laissez pas enfermer dans cette définition.
Oui, mais c'est parce que, enfin, je suis lesbienne comme on serait révolutionnaire ou comme on se dirait communiste, j'allais dire quoi. C'est vraiment comme un programme politique, en fait, de dire ça. Donc ça n'est pas une identité. C'est ça que je veux dire, ça n'est pas une identité. Et j'ai du mal, c'est vrai, avec moi, je suis pas dans un truc de revendication de ah mais ouais, mais en fait, c'est pas là-dessus. C'est vraiment comme un programme politique de dire je suis lesbienne. Et pour le reste, je suis pas très attachée à une définition. Je trouve pas important, voilà, de me définir dans l'espace. Public, parce que justement j'y vois un peu un piège, en fait. J'y vois, mais encore une fois, d'autres non, et je respecte ça aussi.
Alors justement, vous avez mentionné tout à l'heure cette différence entre les États-Unis et la France, et je fais le lien avec ce que vous dites sur votre identité lesbienne. Dans votre livre, vous développez tout un passage sur comment effectivement c'est beaucoup plus rare de voir en France des coming out publics de personnalités par rapport à ce que c'est aux États-Unis, parce que vous faites... Vous avez fait avec Fulbright toute une enquête sur voilà, le traitement des questions LGBT dans les médias en France comparé à ce traitement-là aux États-Unis. Et vous vous basez sur ces recherches-là pour explorer du coup ce thème du coming out. Pourquoi pour vous c'est important qu'on fasse évoluer ces pratiques en France, que le coming out se banalise, quoi ?
Alors, y a plusieurs points. Il y a d'abord, moi je renverse toujours les choses en fait en général, pour dire pourquoi, en fait, s'il y a un souci avec un phénomène qu'il n'y a pas ailleurs, c'est que ça nous raconte quelque chose de l'histoire culturelle de l'endroit où c'est problématique. Donc si en France, par rapport à d'autres pays, il y a un gros problème avec le coming out, c'est que ça nous raconte quelque chose sur les structures culturelles françaises. D'abord, il faut l'étayer. C'est-à-dire que l'étayer, ça veut dire, avec des chiffres, percevoir qu'il y a moins de parlementaires français, françaises, qui font leur coming out que dans d'autres pays. C'est voir qu'on est un des seuls pays où, pendant les discussions extrêmement rudes du mariage pour tous en 2012-2013, malgré les appels de militants, militantes dont j'étais, aux personnalités, des appels très directs à faire leur coming out, il y en a eu zéro. Le compteur est resté bloqué à zéro, et ça, c'est rarissime. Dans l'ensemble des pays, quand il y a eu plusieurs mois de discussion, on a eu aussi des personnalités, en fait, qui ont choisi de faire leur coming out à ce moment-là parce que bah, ça leur semblait politiquement important, et puis de manière altruiste aussi, pour aider les autres gays et lesbiennes. Et en France, nada, zéro. C'est très, très impressionnant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce qu'on a des personnalités publiques, je sais pas, plus égoïstes, plus moins courageuses que dans d'autres pays? Je pense pas spécialement du tout. Donc, ça veut dire qu'elles rencontrent un souci dans l'ordonnancement de la société française pour le faire. Et je pense que... Et ça nous explique pourquoi c'est important aussi, c'est ça que je veux dire. Et le souci, il est multiple, en fait, en France. Je pense qu'il est de l'ordre du rapport à la communauté et du fait que ça soit compliqué de se revendiquer comme de dire je suis lesbienne, mais autant que de pouvoir revendiquer d'être noire, musulman. Et quand je dis revendiquer, c'est vraiment ça, c'est se dire, hein. Ce n'est pas être quelque chose, c'est être capable de l'affirmer dans la place publique et d'affirmer aussi, bah ouais, certaines choses que je dis publiquement ont à voir avec mon expérience des rapports de force de la société, pas tant à mon identité, mais mon expérience de ce que moi, en tant que corps différent, et que ça soit encore une fois un corps lesbien, un corps noir, bah, je vais provoquer quand je suis dans la rue, quand je suis dans tel ou tel espace public, partout, quoi, à l'école, partout. Comment moi, je suis en position privilégiée pour vous raconter comment fonctionnent les structures de domination de la société. Et ça, d'avoir ce discours-là en France, ça n'est pas possible parce que ça n'est pas censé exister. On est censé traiter tout le monde exactement de la même manière. Nous sommes tous citoyens. Donc, c'est vraiment vivre le bonnet phrygien et puis tout va bien, quoi. Et c'est pas vrai, quoi. Et du coup, il y a comme un soupçon, en fait, de nuire à l'intérêt national et à l'intérêt général si on fait ça en France. Et c'est compliqué, du coup, après, parce que je peux pas leur donner tort aux personnalités publiques de penser que le moment où elles font leur coming out, leur parole sera moins légitime. Leur parole générale, si elles parlent au pupitre de l'Assemblée nationale, si elles parlent derrière un micro comme présentateur d'une émission, qu'il y aura ce soupçon-là. Elles n'ont pas tort de le penser, parce que c'est vrai que c'est organisé comme ça. Donc c'est ça aussi, je pense, qui explique. Mais elles ont, à mon sens, hein, c'est juste tort de ne pas forcer ça, parce que plus il y en aura qui le feront et qui agiront différemment, plus on changera finalement, on changera cette donne-là. Et après, il y a aussi un souci un peu plus général, et là c'est de l'importance. Pourtant, le coming out, pourquoi c'est important? C'est pour, évidemment, ce que ça permet, la façon dont ça permet d'aider d'autres qui endurent ces discriminations-là, et je pense en particulier évidemment aux plus jeunes. On connaît les taux de suicide, et on parle à un moment, on a appris le suicide d'une jeune lycéenne trans. Les taux sont extrêmement élevés, et ça ne résout pas tout, encore une fois. Mais d'avoir, de pouvoir voir une personnalité dans l'espace public qui, elle, peut s'exprimer et peut dire « voilà, je suis passée par là, ouais, il y a ça, mais nous existons », c'est extrêmement important. Donc, il faut vraiment pouvoir y accéder à ça. Et je pense, par ailleurs, que dans la notion de coming out, de discours, il y a, je crois qu'on ne sait même pas ce que c'est en France. C'est-à-dire que même quand il y en a qui disent dans des interviews et tout, elles ne le font jamais avec cette vraie mise en scène qu'ont les gens qui habitent, enfin les personnalités publiques des États-Unis, de faire un discours vraiment devant un public, de dire si je le dis aujourd'hui, c'est pour ces milliers d'ados qui nous regardent et tout ça, et d'avoir le sentiment de faire vraiment bouger les choses. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que je n'en ai aucune trace. C'est-à-dire que tout, de toute façon, ce qu'on a appelé coming out en France, d'Amélie Mauresmo à Bertrand Delanoë, c'est fait un peu au travers de journalistes, d'interviews. Ça n'est pas, il n'y a pas tout un sens du spectacle que connaissent très très bien les États-Unis, qui est vraiment travaillé de mise en scène de la déclaration publique pour que le je rejoigne un nous, un espace collectif. Et ce qui là encore est très américain, c'est-à-dire de dire vraiment mon vécu, je me sens autorisée à parler de moi, de mon passé, de mon storytelling, de mon histoire, parce que ça nous parle à tous et toutes. Et ça, c'est juste des différences culturelles. En France, c'est vrai qu'il y a plus une habitude dans les discours et dans la pensée d'adopter d'abord un point de vue transcendant et de parler au nom d'une situation de vision générale, et que c'est vu comme ça qui fait la clarté d'un discours, sa rationalité, plutôt que de son vécu. Et c'est pas un truc bien ou mal en soi, c'est juste que, en tout cas, ça explique des structures, ça a des conséquences, donc prenons-le en considération pour quand il y a des conséquences par ailleurs aussi tragiques derrière.
Pour moi, ça fait écho aussi à tout le discours que vous tenez sur le journalisme et sur les représentations qu'on lit dans la presse. Vous en parlez d'ailleurs par rapport au coming out et par rapport au traitement, donc effectivement, par les journalistes, au fait que, par exemple, les journalistes ne mentionnent jamais ou très rarement le fait que les personnalités soient gays ou lesbiennes ou bi ou trans dans leur... notamment les nécrologies, vous en parlez. Mais en fait, ça fait écho aussi à une pratique plus large du journalisme où vous incarnez aussi dans votre travail votre position aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été facile de le faire, d'après ce que j'ai lu. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment vous avez cheminé là-dessus? Comment vous vous êtes... je ne sais pas si vous avez dû vous en éloigner ou si pour vous, c'était un instinct de dire « Je parle d'une position qui est celle d'une femme lesbienne. » Et voilà ce que ça apporte, en fait, à mon travail de journaliste.
Oui, c'est vrai que dans le journalisme, il y a un effacement hein, de ces notions-là. Vous parliez des... Enfin, les nécrologies encore récemment, hein, la nécrologie de Daniel Cordier, grand résistant, qui ne mentionne pas, alors que lui, c'est encore une fois, il faut bien comprendre, on ne parle pas de ce qu'on appelle l'outing, hein, de révéler contre leur gré l'homosexualité de telle ou telle personnalité. On parle de quelqu'un qui s'en est pas du tout caché, qui l'a dit, pourquoi ça ne figure pas dans les nécrologies? Alors qu'évidemment, c'était un événement, un point majeur de sa vie, puisqu'on pense bien que pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie d'adulte dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est pas spécialement simple, c'était pas spécialement courant. Donc au-delà de encore une fois, c'est pas des questions d'identité, c'est pas de dire ah il faut dire qu'il est gay, c'est parce que ça c'est un point d'information. On rate le journaliste rate l'information de sa vie, une des informations je veux dire importantes à mentionner sur sa vie quand ils ne le font pas. C'est ça qu'ils comprennent pas, c'est pas une question de dire ah mais il faut dire l'orientation sexuelle, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est toujours ramener ça à ces questions-là. C'est pas du tout ça, c'est que c'est un pan très souvent d'explication de l'information. Je pense par exemple, d'autres exemples, au moment du traitement des journalistes que les journalistes politiques faisaient du Front National au moment du débat sur le mariage pour tous. Si nous, à l'Association des journalistes LGBT, on a défendu par exemple le fait que Closer révèle que Florian Philippot était gay, c'est parce que c'était mentionné aussi dans l'article que ça pouvait expliquer le fait qu'il y ait beaucoup de gays en fait dans la direction de ce qui s'appelait alors le Front National pouvait expliquer certains positionnements par rapport à la manif pour tous. Donc c'est de l'information du journaliste politique par essence. Et donc ça fait faire n'importe quoi en fait d'avoir cette espèce d'immense gêne qu'ils aient l'impression qu'ils disent un gros mot en fait, hein, s'ils prononcent le mot homosexualité. Donc ça c'est effectivement majeur. À moi, à titre personnel, je crois que je me suis pas du tout posé la question. C'est-à-dire que moi je suis arrivée à 20 minutes à la fin des années 2000. J'étais tout à fait ouvertement lesbienne. C'était important pour moi, de pas en faire mystère. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'au fur et à mesure, mais parce que justement j'ai vécu en gros ma première décennie de journalisme au moment des débats sur le mariage pour tous, que ça veut dire quoi? Quand on dit j'ai vécu en tant que journaliste au moment des débats sur le mariage pour tous, c'est-à-dire que j'ai vécu 6 mois si on prend la grosse période des discussions, où ce sujet, où l'actualité parlait de ça, vraiment beaucoup, c'est-à-dire que je pouvais pas faire autrement que m'en occuper, et ça m'a révélé en fait énormément des structures du journalisme. Pourquoi? Parce que à cette occasion-là, comme moi j'étais journaliste lesbienne, il y a eu certaines réactions. Un, de me dire, toi tu parles pas du sujet, toi tu t'en occupes pas, t'es lesbienne, t'es biaisée. Donc là déjà, première chose, qui était valable à d'autres moments, mais qui là ne pouvait pas ne pas apparaître, puisque c'était vraiment au centre de l'actualité. Ok, donc là évidemment questionnement, pourquoi est-ce que moi je suis lesbienne, je m'en occupe pas, truc complètement évidemment discriminatoire, puisque sur d'autres sujets, ça n'a aucune importance que tel journaliste, je ne sais pas, soit divorcé pour commenter la dernière étude sur le divorce, entre 1000 exemples. Deuxièmement, qu'est-ce que ça voulait dire sur le rapport aux sources, à l'expertise? Pourquoi ne pas avoir considéré, qu'en plus j'étais pas juste lesbienne, mais militante lesbienne revendiquée, ne pas considérer que ça, d'habitude les journalistes ils adorent avoir des gens qui ont des super carnets d'adresses, ça peut être des questions qu'on pose dans un recrutement, c'est quoi votre carnet d'adresses, c'est quoi vos sources, est-ce que vous allez nous apporter des éléments nouveaux sur le sujet, comment ça se fait? Moi j'avais tout le carnet d'adresses de Paris, du militantisme LGBT, mais là ça compte plus, là c'est plus considéré comme des sources journalistiques, c'est quand même bizarre sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça que je dis que ça, c'est je ne pouvais que m'en apercevoir, et que m'apercevoir justement, en revanche, après, il y a eu tout un travail de réflexion, de dire, bon, comment on fait pour amener un changement, et encore une fois, pas évidemment que ça, à la base, il y a des discriminations lesbophobes, mais je pense qu'au-delà de ça, ça interroge vraiment la façon dont les journalistes considèrent les activistes, les militants, les militantes, et ça interroge le journalisme. C'est pour ça que, moi, très souvent, quand c'est comme ça, moi, une de mes stratégies, c'est de créer un modèle alternatif, donc c'est créer un espace de réflexion haute, et donc ça a été la création de l'association des journalistes LGBT exactement à ce moment-là, en 2013.
Non mais pardon, je rigole sur t'es lesbienne donc t'es biaisée, parce que si on appliquait cette logique au journalisme sportif, il n'y aurait plus personne pour commenter les matchs de tennis, parce que tout le monde est fan de Federer dans le milieu médiatique.
Mais non, mais c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, on ne demande pas pour les journalistes qui couvrent le PSG. Au contraire, c'est valable s'ils connaissent tous les joueurs de A à Z depuis les 40 ans du club, parce qu'ils sont super fans du club. C'est vu comme une expertise. à ce moment-là. Non, non, mais bien sûr. C'est exactement...
Alice Coffin, merci beaucoup de nous avoir accordé une heure d'échange sur Activiste. On va s'arrêter là, mais alors on a tellement, tellement de sujets. Vraiment, n'hésitez pas à revenir dans Activiste. On n'hésitera pas à vous reproposer d'ici quelques mois. Mais juste avant de se quitter, je vais quand même laisser la parole à Esther pour une dernière question, parce qu'elle est vachement bien, cette question. Donc je propose qu'on prenne encore un peu de temps ensemble.
Donc moi, quand j'ai ouvert votre livre, ça m'a surpris en fait que dès le premier chapitre, vous donniez le ton du dernier. C'est-à-dire que dès le premier, vous avertissez, à l'aide de cette magnifique citation de Monique Wittig, qui dit « Tout travail littéraire important est, au moment de sa production, comme un cheval de Troie. Toujours il s'effectue en territoire hostile, dans lequel il apparaît étrange, inassimilable, non conforme. Puis sa force et la beauté de ses formes l'emportent. » Même en prenant ses pincettes, en avertissant, votre livre a suscité des réactions ulcérées et vous a valu un harcèlement phénoménal sur les réseaux sociaux, notamment concernant tout ce discours sur la guerre des hommes. Qu'est-ce que vous en déduisez, vous, à part que les journalistes ne font pas toujours bien leur travail ?
C'est super intéressant comme question, et puis je le remercie parce que c'est la première fois qu'on m'interroge sur la phrase de Wittig, justement, qui est en ouverture effectivement du livre. Alors, c'est intéressant parce que ça raconte un peu la façon dont s'est écrit le livre. Cette phrase, elle n'y était pas au départ. Cet avertissement-là, lorsque j'ai rendu ma première version à Grasset, ça n'y était pas. Et moi, la première version que j'ai rendue à Grasset, en fait, elle a suscité pas mal de remarques de mon éditrice, et notamment de passages où elle-même, elle était un peu choquée, un peu interloquée, tout ça. Moi, j'ai retiré aucun de ces passages. C'est-à-dire qu'on a pu en discuter, j'ai dit non, je veux ça, je veux ça. Et elle, vraiment, bon, elle me disait, bon, bah ouais, mais attends, là, quand même, oh là là là, tu vas fort, tout ça. Du coup, ça m'a... C'était très bien. C'est-à-dire qu'elle a fait un très beau travail d'éditrice, parce qu'en me disant tout ça, et elle, en me donnant un peu le choc qu'elle avait à lire certaines phrases, je me suis dit, ah, dans ce cas-là, il faut... Je vais certainement pas les enlever, ces phrases-là, j'y tiens absolument. J'ai pas touché un truc, enfin, je veux dire, c'est resté vraiment. Mais j'ai ajouté. J'ai ajouté, justement, ça m'a fait travailler aussi sur qu'est-ce que ça veut dire en fait. Ça veut dire quoi un livre qui vient, qui fait irruption dans un système de pensée où tout est fait pour le rejeter, pour que les propos qui sont tenus dans le livre soient précisément ceux qu'on essaye de museler d'habitude en société. Et qu'est-ce qui se passe? Il fallait prendre en compte là encore tous les paramètres, c'est-à-dire que c'était un livre, moi, que j'ai choisi d'aller publier dans une grande maison d'édition généraliste comme Grasset, qui publie aussi Pascal Bruckner, hein, qui sanglote sur les pertes terribles infligées à l'homme blanc. Donc ce que je veux dire, c'est que Grasset n'est pas une maison militante. Et pour moi, c'était très important aussi, parce que ça voulait dire, on fait endosser aussi ces propos-là, qui sont forts contre, moi qui encore une fois relève de l'évidence, mais qui évidemment sont en décalage avec beaucoup de pensées qui régissent notre société-là. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et là, la citation de Wittig, comme énormément des propos et des pensées de Monique Wittig, même tous, sont très, très, extrêmement percutantes sur cette question-là. Alors après, la réception du livre, d'ailleurs c'est intéressant parce que finalement, moi je pense à ce moment-là, moi je me dis, surtout parce que les réactions des lecteurs de mon entourage, ma maison d'édition dit ça aussi, tiens, c'est le dernier chapitre qui risque un peu de coincer, bon, même s'il y avait d'autres potes, amis, je me souviens d'un copain journaliste qui m'a dit, non mais attends, il y a 10 sujets sur lesquels tu vas te faire allumer, là, c'est pas possible. Donc je savais qu'il y avait potentiellement, bon. Mais c'est vrai que ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi c'était cette phrase-là sur l'histoire des lectures, de ne pas lire les livres d'hommes et tout ça, de ne pas regarder leurs films. Et là, ça ne veut jamais rien dire. Quand il y a une telle focalisation, alors évidemment, c'est parce que si on déconstruit, c'est un article de Paris Match qui raconte absolument n'importe quoi, qui tronque la phrase et qui dit que je veux supprimer les hommes, enfin, qui vraiment fait du que je veux les éliminer, qui est complètement malhonnête, enfin, je veux dire, qui fait un boulot de journaliste vraiment complètement enfin, médiocre, là, pour le coup, et problématique, mais bon. Mais c'est pas que ça. Si ça a eu autant d'écho, s'il y a autant de gens qui ont voulu de manière, avec des mauvaises intentions ou de bonne foi, s'arrêter là-dessus, c'est que certainement ça dépasse bien sûr ma phrase à moi, ma pensée à moi, et toute pensée elle est collective de toute façon, et ça vient nous dire que tiens, si c'est ce point-là, c'est parce qu'en ce moment, quand j'y ai réfléchi, et j'avais pas mis ça dans le livre, mais ça veut dire que c'est en ce moment, il y a une focalisation sur les choix qu'on veut faire, parce que je dis pas autre chose quand on dit je choisis de nourrir mon esprit, mon imaginaire de la manière dont je l'entends, c'est moi qui décide. Et ça m'a fait vraiment penser que c'était comme... c'est marrant parce que c'est une discussion avec mon père en plus qui m'a fait émerger ça, où lui il m'a dit mais non mais attends, dans les années 70 c'est mon corps, mon choix, et là finalement toi tu dis ton esprit, ton imaginaire, ton choix, et c'est vraiment exactement ça. Je pense que si ça achoppe là-dessus, c'est parce que c'est bien plus général que ma phrase. C'est ce qui est en train de se passer dans le mouvement féministe de manière bien plus large en ce moment. C'est-à-dire qu'on travaille sur les imaginaires, sur les productions culturelles et sur ce qu'elles font aux femmes. Et ça, que MeToo ait commencé dans le milieu du cinéma, n'est pas du tout anodin de ce point de vue-là. Et que je crois que là où les années 70 ont dit « mon corps, mon choix, nos corps nous appartiennent », il y a cette volonté depuis quelques années de dire « nos esprits, nos imaginaires nous appartiennent, on les nourrit exactement comme on veut, et si notre choix se de ne pas les nourrir avec des œuvres d'hommes, avec des regards d'hommes, c'est entièrement notre liberté. » Et que cette émancipation des imaginaires des femmes, de leur mise sous tutelle depuis des siècles par des productions culturelles d'hommes, c'est quelque chose de fondamental en ce moment, je crois, dans la lutte féministe. Et c'est pour ça que je pense que ça a aussi, au-delà des petites piques ou règlements de compte ou je sais pas quoi, ou mauvaise foi, c'est pour ça que ça a tant focalisé sur cette phrase-là. Et que la réception à la lecture du livre, elle a été très marquée par ça, finalement.
Bah nous, c'est raison de plus pour laquelle on est très fiers et très heureuses d'avoir pu vous tendre le micro pendant toute cette heure en votre compagnie. J'ai envie qu'on se fasse une promesse. Dans ces prochaines semaines, prochains mois, si vous vous retrouvez de nouveau dans une émission, sur un plateau, à être frustré parce qu'on ne vous laisse pas la parole, on ne vous laisse pas le temps d'expliquer une idée, de pouvoir vraiment développer votre discours, revenez nous voir. On se refait ça et on reprend des discussions. Il y a tellement de sujets sur lesquels je pense qu'on pourrait encore échanger pendant des heures. Mais rassurons-nous un petit peu. L'année a été longue. Je crois que 2021, ce ne sera pas magique dans 3 semaines. Et que faisons-nous cette promesse de se retrouver pour prendre le temps de libérer nos imaginaires et d'y faire de la place pour des idées neuves. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben non, mais vraiment merci beaucoup, parce que pour les auditrices, auditeurs, franchement, vous avez commencé ce podcast en me disant c'est un entretien qui vise à entendre votre parole de manière construite, vous pourrez, prenez le temps, on est là, et ça c'est très agréable dans la démarche journalistique, en fait c'est extrêmement important, et c'est pas normal que ça soit pas comme ça partout, et qu'il y ait des volontés de piéger, de retenir une citation qui serait pas la bonne, et vous le terminez comme ça avec une proposition, en fait. Et moi je trouve que c'est très très important, c'est comme ça qu'on construit un combat, une lutte, c'est aussi avec des propositions positives et des échappatoires par rapport aux oppressions ailleurs. Donc je prends bonne note et attendez-vous à un appel très bientôt, parce que ça n'arrête pas, et les fois où on me laisse pas trop m'exprimer.
Avec grand plaisir. On envoie toutes celles et ceux qui veulent ne rien rater de votre travail en librairie pour se procurer Le génie lesbien, une lecture que Esther recommande, n'est-ce pas ?
Je l'ai dévoré. non, vraiment, merci beaucoup. Effectivement, il y a encore tellement d'autres sujets que vous abordez et dans lesquels je me suis reconnue aussi, notamment sur toute cette partie sur le journalisme. Pas plus tard que ce matin, quelqu'un qui je posais des questions me disait « mais t'es pas très agressive dans tes questions ?» Et j'étais là « mais en fait, pourquoi je devrais être agressive ?» Il y a une phrase dans votre livre, un moment où vous dites « les écoles de journalisme ne nous apprennent pas à faire éclore les réponses ». Et en fait, moi, j'ai pas fait d'école de journalisme. Je me suis formée sur le tas, et notamment chez Mademoiselle, et face à des personnes où effectivement je cherchais pas à les brusquer pour obtenir un truc, parce que j'étais pas face à des politiques, j'étais dans une rubrique qui était la rubrique témoignage, où du coup mon but c'était de révéler l'intime et de mettre les personnes en confiance pour qu'elles puissent livrer leur témoignage. Et c'est comme ça sur le tas que je l'ai appris quelque part, et donc vraiment, enfin voilà, c'est une pépite ce livre, allez le lire, en particulier si vous vous sentez concerné par ces sujets que sont le journalisme, le lesbianisme, le militantisme, et d'ailleurs peut-être même en particulier si vous ne vous sentez pas concerné, parce que ça vous fera apprendre d'autant plus de choses, vraiment c'était une respiration.
Merci, franchement c'était la joie notre émission, merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto-conquérir-le-monde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs, dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast
et partagez nos épisodes à vos proches. C'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.